Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Il a envie de lui dire qu'il ne sait pas s'il l'écrira. Mais Apolline semble tout excitée. Peut-il seulement l'écrire et me la faire lire? Je sais que les écrivains, il faut les forcer à écrire, autrement ils ne feraient rien. Je ne te lâcherai pas tant que tu n'auras pas fini d'écrire ton histoire. Jean-André se sent gêné. Mais je ne sais pas si je serai capable. Si, tu en seras capable. Tu as déjà résumé l'histoire et c'est le plus difficile de trouver le sujet. Et tu l'as trouvé. Jean-André lui dit, « Mais je ne pourrais peut-être en trouver un autre. S'il est tout aussi bien que celui-là, bon. » Il est dans sa chambre, assis à son bureau, devant un cahier et cherche à écrire. Par honnêteté, par fierté, car il veut être plus grand que son frère. Mais malheureusement, rien ne vient. Il a toujours dans sa tête cette histoire, cette satanée histoire que son frère vient d'écrire. Cela l'énerve, il aimerait tout abandonner. Mais la fierté le force à vouloir faire un écrit. Lui aussi. Les heures passent et rien. Et puis de temps en temps, il écrit des fragments de début d'histoire qu'il croit pouvoir mener à terme. Et au bout d'un moment, il s'aperçoit que son histoire, malgré lui, a bifurqué vers celle de son frère. Cela l'agace. Il s'aperçoit que malgré lui, c'est l'histoire de son frère qui lui plaît le mieux. Il se sent incapable d'en écrire une autre et décide d'arrêter. Son frère a gagné. C'est le plus grand. Il ferme le cahier et va se coucher. Malheureusement, il n'arrive pas à trouver le sommeil. La jalousie du frère qui a plus de talent que lui. Et toujours ce désir de trouver un sujet d'histoire pour pouvoir l'écrire et le faire imprimer. Lui au moins il peut. Son frère non, car il est trop jeune. Sa nouvelle restera dans un tiroir. Mais, qui sait plus tard? Et si lui n'arrive pas à écrire? Non, il faut qu'il soit le premier à être édité. Mais le lendemain matin, fatigué, la langue porteuse, il a envie de tout laisser tomber. Il n'est pas un écrivain. Tant pis. Petit déjeuner, il retrouve la famille au salon. Son frère mange calmement. Charles-André sourit et se dit qu'il devrait être malade pour s'être émerveillé par des écrits d'un enfant. Mais au même moment où il pense à cela, il voit des fragments, des phrases devant ses yeux. Il les entend pas, mais les voit écrites à l'encre bleue avec l'écriture de son frère. Cela l'agace. Il veut oublier. Il veut oublier. Il voit sa sœur qui semble calme. Il se dit avec soulagement qu'elle a dû oublier son sujet d'histoire. Oui, elle a dû l'oublier. La matinée se passe sans histoire. Charles-André lit à l'écart et a oublié tout ça. Dans l'après-midi, il fait une promenade dans le parc pour se dégourdir un peu. La mère interdit toujours aux enfants de sortir. Il voit sa sœur arriver vers lui avec le sourire. Elle lui prend le bras et lui donne un baiser sur la joue. Il la trouve vraiment très belle et se dit que jamais il ne pourra trouver une aussi jolie fille. Tout en marchant, elle lui demande « Alors, et ton histoire ?» Je ne l'écrirai pas. Et pourquoi? Parce que je suis incapable de l'écrire. Je ne suis pas un écrivain, que veux-tu? Je suis très déçu. J'étais tellement fier d'avoir un frère capable d'écrire de si belles histoires. Cela l'irrite, car il sait qu'elle encense le travail de son frère. Et lui dit, une histoire si belle, elle n'est pas si belle. Elle est même très banale. Elle lui répond, je ne trouve pas, et puis on peut la développer d'une façon très jolie. Ça, c'est toi qui le dis. Si tu la lisais, elle s'arrête l'aide de marcher et lui dit « Tu as déjà écrite ? Tu me fais marcher. » « Mais non, je t'assure. » « Tu me taquines, ce n'est pas bien. » « Non, je t'assure. » « Alors, tu veux pas que je la lise ? Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, je ne te parle plus. J'irai voir Jules pour passer la journée avec lui. Et je lui dirai que tu as un projet d'histoire. Je raconterai ton histoire. » Jean-André panique et lui dit « Non, ne lui parle pas de mon histoire. N'en parle à personne. » Elle lui dit « Alors fais-la-moi lire, sinon... » Elle s'apprête à partir. « Attends, dans une semaine, je te la ferai lire. » Elle sourit, l'embrasse et lui dit « Si dans une semaine, je ne l'ai pas lu, j'en parlerai à Jules. » Elle s'éloigne en riant. Jean-André se demande « Comment il va faire ?» Le soir, une fois dans sa chambre, il se met à son bureau. Puisqu'il le faut, il le faut. Il prend son cahier pour l'ouvrir. Je n'aurais qu'à changer les noms, les lieux. Il a un peu honte, mais écrit. L'histoire, il la fait pas passer en ville, mais à la campagne. Le jeune homme qui voyage à cheval dans une forêt, son cheval est piqué par un frelon et le fait tomber sur une pierre. Il reste inanimé. Il se réveille dans une chambre et avec à ses côtés une très belle jeune fille. Elle lui explique qu'elle l'a trouvé inanimé et fait mener dans son château de son oncle. Elle le soigne avec l'aide d'une domestique. Tombe vite amoureux d'elle et elle de lui. Pendant sa convalescence, ils font de longues marches dans les bois. Un matin, malheureusement, la jeune fille est emportée par les révolutionnaires. Le jeune homme est forcé de quitter le château, poursuivi par les révolutionnaires lui aussi. Il est poursuivi jusque dans les bois et il leur échappe. Puis, il recherche la jeune fille durant plusieurs mois. Le temps passe, toujours pas de nouvelles de la jeune fille. Dans sa ville où il est revenu, il rencontre une autre jeune fille. Il la trouve charmante et quelques mois plus tard, il se marie. Plusieurs années plus tard, la jeune femme lui dit qu'elle va avoir la visite de sa sœur. La sœur vient la voir. Le mari retrouve la jeune fille qu'il avait connue. Elle le reconnaît. Le mari lui dit qu'il l'aime toujours, mais que c'est trop tard puisqu'il est marié. La femme repart après sa visite. Ils ne se reverront plus jamais. Et la femme du jeune homme ne le saura pas. L'amour du jeune homme pour sa sœur. C'est fini. Il a mis 3 jours pour écrire cette nouvelle. Un travail forcé sans joie. La nouvelle, une fois finie, est assez agréable à lire. lendemain matin, après le petit déjeuner, il dit à sa sœur, en sortant de table, « Je l'ai fini. Tu la feras lire ?»« Oui, mais n'en parle à personne. Cet après-midi, sous la tonnelle, après le déjeuner. » Et après le déjeuner, il va avec son cahier sous le bras. Jules le croise avant de sortir de la maison. Où vas-tu avec ton cahier ?
Je vais étudier dans le parc.
Je vais avec toi.
Non, j'ai étudié mon langage et j'ai besoin d'être seul.
Jules hausse les épaules et le quitte. Charles-André sur la maison pour aller à la tonnelle. La tonnelle se trouve à l'arrière de la maison, au fond du parc, contre le mur. À l'intérieur, il y a un banc de pierre. Il s'assoit sur le banc et attend, inquiet bien sûr, car pour la première fois, il va donner à lire une de ses œuvres, ou plutôt sa première œuvre. Enfin, Pauline arrive. Elle s'assoit près de lui. Elle voit qu'il a le cahier sur ses genoux.
Je suis très émue. C'est le cahier ?
Oui. Je peux le prendre ? Il lui donne. Elle le prend. L'ouvre et le lit.
C'est insupportable de voir une personne qui lit ce que l'on a écrit.
Il baisse les yeux pour ne pas voir.
Après un moment, elle ferme le livre, ou plutôt le cahier. Elle lui dit,
c'est une très belle histoire. C'est très romantique. Ça t'a vraiment plu ?
Oui, je t'assure. Elle l'embrasse sur la joue.
Il faudra continuer à écrire.
Promets-moi que tu ne diras à personne ce que tu as lu. Tu n'en parleras à personne.
Je te le promets.
Le 30 août et le 1er septembre, la bataille autour de Sedan. Le 2 septembre, Napoléon prisonnier.
Serrez-vous un peu.
Voilà.
Le 4 septembre, la République à Paris.
Le temps passe dans l'incertitude, tout s'arrête et attend. Le père dit à sa femme un soir au salon,
« La République à Paris, quel effroi ! Ces satanés parisiens nous l'imposent !»
Charles-André rêve d'aller à Paris juste pour embêter son père.
Les jours passent et les parents décident d'inscrire leurs enfants dans des pensionnats en dehors de Lyon. Un pensionnat religieux pour les garçons, sur les hauteurs de la Saône, et pour Apolline, dans un pensionnat dans une petite commune près de Lyon, à Vénissieux, la Xavière. Charles-André est déchiré de se séparer de sa sœur. Jules est content d'aller en pension car il se dit qu'il pourra se faire des camarades.
Trop plein de joie pour prononcer un discours. Permettez-moi seulement de glorifier le peuple de Paris. Qui vient de donner au monde un exemple.
Le 20 mars, Napoléon III en Angleterre, en exode, bien reçu par les Anglais et les Français qui y sont. La France battue, humiliée dans les guerres civiles, une république qui, comme d'habitude, s'impose par le canon. Comme d'habitude, ce sera les pauvres qui vont payer. Et les nouveaux riches vont prendre la place des anciens. Une époque nouvelle remplace l'ancienne par des coups de canon.
Je vous préviens que ces pays a...
J'ai jamais ému nos armes. Paris salué, acclamé sa révolution.
Excusez-moi, monsieur.
Fin de la première époque.
personnages, la terre retourne jour et nuit. L'eau de pluie se change en nuages et les nuages retombent en pluie. Femme honnête, grisette tendre, aristocrate ou bien soldat, quand l'amour vient les surprendre, tout ne danse d'un même pas. Maintenant la ronde commence, c'est l'heure calme où meurt le jour. Regardez, la fille s'avance, voici la ronde de l'amour. La ronde de l'amour.
Il y a un bouton.
Ah non, non, il y a erreur, madame.
Madame, tu fous de moi?
Moi, je ne me fous de personne.
Alors tu viens ou tu viens pas?
Je ne suis pas dans le jeu.
Le jeu?
Je mène la ronde. Vous comprenez? Et c'est par vous qu'elle va commencer. Alors placez-vous là, au coin de la rue, voulez-vous? Vous entendez?
Ah oui, c'est des soldats. Encore des militaires.
Il y a toujours des militaires. Mais le vôtre, c'est les sixièmes.
Pas comme les autres.
Oui, mais dans un instant, il va vous accompagner. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
La fille et le soldat.
Deuxième époque. En Angleterre, où il était réfugié, Napoléon III mort le 8 janvier. Jules a 13 ans. En grandissant, il est devenu timide. Il a très bonnes notes au lycée, ce qui enrage son frère qui n'a rien fait comme étude et passe son temps dans les cafés à boire, fumer et réciter des vers avec sa sœur. Le soir dans sa chambre, il continue à écrire. Apolline poursuit ses études, mais elle rêve de jouer la comédie, ce qui fait enrager ses parents. Jules, après ses cours, comme il n'est plus pensionnaire, écrit le soir. Il rêve de grandes amitiés et d'aventures. Sa timidité l'empêche d'avoir des amis. Et puis les jeunes gens de son âge sont corellors, grossiers, ils jouent les hommes. Alors il reste dans sa chambre à lire. Il lit beaucoup. Ses rapports avec son frère et sa sœur sont polis, froids. Ils sont trop grands pour lui et trop unis. Un soir, Constant entre chez lui après une journée harassante car les affaires sont dures. En passant devant le salon, il entend des voix, son fils Charles André dire « Ça me dégoûte tout ça. Mon père est comme les autres. Il gagne de l'argent en faisant travailler les autres. » Furieux, Constant ouvre la porte. Il voit Charles-André debout au salon, en face de jeune homme, maigre, cheveux filasses noirs, pâle comme la mort, habillé d'un vieux costume noir sale.
« Charles-André, dis au revoir à ton ami et viens avec moi. »
Le fils sursaute. Il se retourne vers son père.
« Fais ce que je te dis. »
Charles-André, penaud, dit au jeune homme.
« Pardonne-moi, mais... il faut que tu t'en ailles. »
Je comprends. Le jeune se lève. Et leur dit, ne me raccompagnez pas. Une fois que le jeune homme est quitté le salon, le père dit à Charles-André,
j'ai entendu par hasard ce que tu venais de dire. Il paraît que je te dégoûte, que je gagne de l'argent en faisant rien. Et toi, que fais-tu? Réponds. Que fais-tu pour critiquer les autres? Monsieur ne fait rien. Il se contente d'être ici et de se faire servir. Et monsieur traite les personnes qui le font vivre de négriers de pauvres. Si moi je suis négrier des pauvres, Toi, qu'est-ce que tu es? Parce que tu profites de ce que je suis. Je travaille 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Et que fais-tu, toi?
Rien.
Ou pas plus que toi.
Parce que le travail que tu fais, ce n'est que spéculer sur le travail des autres.
Et c'est cela. Et tu t'imagines que je n'ai qu'à tendre la main pour que l'argent rentre? Et si c'est simple, pourquoi ne le fais-tu pas?
C'est contraire à mes idées.
Je sais. Mais si c'est contraire à tes idées de travailler comme je le fais, tu peux par contre travailler comme les ouvriers.
Non, parce que je suis contre l'exploitation de l'homme par l'homme. Le père hausse les épaules.
Alors d'après toi, il ne faut rien faire, puisque le travail manuel, c'est de l'esclavage, et que l'intellectuel, c'est être du côté des esclavagistes. Mais dis donc, toi, qui aimes avoir de belles bottes, de peau bien faite, bien chère, avec tes idées, personne ne pourra t'en fabriquer.
Le fils hausse les épaules. Le père continue.
Monsieur a des idées communes. C'est de ton âge. Mais garde tes idées pour toi. Et avant de critiquer et de traiter ton père de feignant, tu ferais bien de faire quelque chose. Jusqu'à présent, tu n'as rien fait. Raté tes études et tu passes ton temps au café. Et en plus avec ta sœur qui est plus jeune que toi. J'aimerais bien savoir ce que tu comptes faire plus tard.
Charles-André, rouge de honte, lui répond.
Je sais ce que je veux faire.
Ah oui. Et que comptes-tu faire, à part la révolution?
Écrire.
Le père hausse les épaules.
Écrire. Et quoi? Mettre tes idées comme une arde sur le papier?
Non, écrire des poèmes, des romans.
Monsieur à la muse, il a l'esprit créateur. Remarque, ça t'ira très bien. Tu iras lire tes vers et poèmes et parleras politique prolétaire à des amis anarchistes dans des cafés sans la fumée en buvant de l'absinthe. Tu te feras accompagner par ta sœur, habillée en homme, et fumeras la pipe comme Georges Sand. Et une fois par mois, tu iras voir ta famille de sales capitalistes pour qu'on te donne ta pension.
Charles-André furieux lui dit « Tu dis n'importe quoi. D'abord, je veux faire publier mes œuvres.
À compte d'auteur, avec mon argent, l'argent du négrier de père. »
Qui te dit que ce sera à compte d'auteur?
Personne ne voudra mettre de l'argent dans ces choses.
Qu'est-ce que tu en sais?
Je le sais, j'ai lu un échantillon de ta prose. Par hasard, je suis tombé sur un de tes écrits. Tu veux que je te dise? C'est tellement bête qu'une dissertation comme celle-là dans une classe de sixième aurait eu 5/10.
Charles-André est tout rouge. Il a honte que son père ait lu un de ses écrits. Le père continue.
Tu dédies foulement boutonneux. Tu jettes par écrit tous tes fantasmes. C'est dégoûtant et impudique. On garde ces choses-là pour soi. J'espère que tu n'as pas fait lire ces divagations à ton frère et à ta sœur.
Le fils est furieux. Vous n'avez rien compris. Tout ce que j'écris, c'est parce que ça va au-delà de la morale. Le mal n'existe que si l'on sait le mal. La nudité n'est pas impudique, c'est le regard qui peut l'être.
Des paroles, tout ça.
Vous ne comprendrez jamais rien.
Je ne comprendrai jamais rien, quoi? Tu t'imagines que je ne suis pas assez intelligent pour comprendre ce que tu écris. Comment oses-tu? Tu te dis supérieur à moi, toi qui ne fais rien, que des gribouillons. Tu ne sais rien faire. Et puis, qui peut prendre au sérieux ce que tu écris?
Des gens.
Personne. Tout le monde pensera comme moi. C'est nul.
C'est ce que nous verrons.
Oui, eh bien, le jour où tu trouveras un éditeur pour tes gribouillons, nous en reparlerons.
Oui.
En attendant, va dans ta chambre. Je t'interdis de recevoir ici des traînes savates. Et je veux c'est que tu cherches du travail le plus vite possible. Un conseil. Arrête de rêver. Jette au feu tes écrits et entre dans la vie des adultes. Tu as 18 ans, ne l'oublie pas. Allez, va.
Charles-André sort du salon furieux. Il monte à sa chambre.
Soupir.
Je vois crier, casser, serre les poings et donne un coup à son bureau.
Le salaud. L'on a frappé à la porte. Si c'est lui, je le tue. Entrez.
Il se retourne, C'est sa sœur. Elle ferme la porte.
Elle va vers lui. Elle est devenue une belle jeune fille, cheveux longs qui ondulent, visage allongé avec de beaux yeux, la taille mince, long, habillée d'une robe marine. Elle lui demande « Que s'est-il passé ? J'ai entendu que vous disputiez avec père. » « Père est un salaud. Il m'a traité de tous les noms et m'a dit que j'étais un bon à rien. Il a lu un de mes écrits et trouvé ça nul, digne d'un gribouillis d'un enfant de 12 ans. Et encore, sa sonne lui donne un baiser sur la joue et lui dit « Ne t'en fais pas, père n'y connaît rien. Ce que tu écris, c'est très beau. » Il a les larmes aux yeux et lui dit « C'est vrai ? Oui. » J'aime beaucoup, et puis surtout l'histoire d'amour qui est devenue fantastique. Celle que je préfère, c'est la première, qui a plus d'idées que les autres et est plus construite. Il a un pincement au corps, car sa première nouvelle, il a volé le sujet à son jeune frère et presque copié. Il avait presque copié l'histoire que Jules avait écrite. Mais personne ne le sait. Il lui demande « C'est vrai, tu ne préfères que la première histoire ? Les autres sont bien aussi. » Elle se met à marcher dans la pièce en parlant. Mais elles n'ont pas cette profondeur. Ils ont dirait que les personnages ne sont pas ce qu'ils devraient être. Bien sûr, car toutes ces nouvelles qu'il a écrites raconte l'amour qu'il éprouve pour sa sœur. Mais bien entendu, le tout est sublimé, ce qui fait que dans ses nouvelles, des fois, le lecteur ne comprend pas pourquoi l'amour d'un homme et d'une femme est interdite, puisqu'ils ne sont mariés tous les deux. Il lui demande « Alors, c'est raté ce que j'écris ? Non, c'est très beau, cela ressemble un peu à l'amour courtois. C'est très beau. Ce n'est pas très réaliste, ni de notre époque. Tu aimes vraiment ? Oui, beaucoup, mais surtout la première, dit-il tristement. Elle l'embrasse sur la joue et lui dit « Je les aime toutes. » Il lui dit « Père m'a mis au défi de trouver un éditeur. » Elle lui dit « Moi, je suis sûr que tu en trouveras un. » Il lui dit « À part toi, personne n'a lu ce que j'ai fait. » Je ne sais pas si j'aurai le courage de les faire lire à des inconnus. Elle lui dit, je le ferai bien. Un écrivain qui écrit le fait aussi pour être lu, non? Alors présente tes écrits. Le lendemain, il assemble tous ses écrits, sauf la première nouvelle, et va voir un éditeur place des Terreaux, un éditeur qui tient une librairie, la Plume Rouge. Il édite des petits auteurs, la plupart du temps à compte d'auteur. La librairie a une grande vitrine qui donne face au musée Saint-Pierre. Charles-André entre avec ses cahiers. Le magasin est vaste, il fait sombre, ça sent les papiers et la poussière.
Il y a des rayonnages jusqu'au plafond, contre les murs. Une grande échelle à roues permet d'aller chercher les livres en haut. Au milieu de la pièce, des piles de livres sur des tables de bois. Le magasin est vide de clients. Un homme, grand, mince, ses cheveux grisonnants, habillé d'un vieux costume gris, s'approche de Charles André.
Vous désirez, monsieur ? Voilà, je suis venu vous apporter des écrits pour pouvoir les faire publier.
Ce sont des poèmes ?
Non, des nouvelles.
Ah, des nouvelles. Les lecteurs ne sont pas très friands de ce genre de littérature.
Vous ne les voulez pas ?
Si, je veux bien les lire.
Il prend les cahiers à Charles-André et lui dit
« En ce moment, les affaires ne sont pas tellement bonnes. Mais enfin, je vais voir. »
Charles-André sourit. Le libraire lui dit
« Revenez me voir dans une quinzaine. »
« Merci, monsieur. »
Et Charles-André s'en va tout heureux. Il se dit que le libraire aimera sûrement ses nouvelles qui sont très belles. Lui, le libraire, va mettre les cahiers à l'arrière-boutique. Il ne les lira pas et se demande ce qu'il va dire au jeune homme. Une fois rentré chez lui, Charles-André dit à sa sœur qu'il trouve au salon.
« Je crois que j'ai trouvé un éditeur qui va faire éditer mes nouvelles. »«
Ouh, que je suis heureuse !»«
Si elles sont éditées, je demanderai à ce que l'on mette que je te les dédie. »
Charles-André est heureux. Il se dit qu'il va pouvoir bientôt jeter à la figure de son père ses œuvres imprimées.
Il se voit déjà. Il voit déjà les livres dans les vitrines des libraires, avec son nom écrit sur la couverture en gros caractères.
Lorsqu'il va voir ses amis au café, maintenant, il les voit de haut, car lui a réussi ce qu'eux n'ont pu faire.
Il les trouve sans avenir, incapable de mener à terme une œuvre, tandis que lui sera bientôt publié. Lui, qui n'a seulement que 18 ans.
Et dire que certains qu'il rencontre au café ont la trentaine et n'ont encore rien fait.
Oui, il est le plus fort, le plus grand.
Et en se croyant supérieur, il les rejette. Et malgré lui, à cause de son orgueil, de sa fierté, il se met à avoir les mêmes idées que son père sur eux. Et même ses idées sont plus méchantes.
Un après-midi qu'il est au café, avec des jeunes et moins jeunes,
Il sourit de joie en pensant à son avenir. Un homme barbu, dans les 25 ans, lui demande « Pourquoi est-ce que tu ris ?» Alors, n'en pouvant plus de garder son secret, il lui dit « Je vais être publié !» Les autres le regardent. Le barbu lui dit « Tu te moques de nous ?»« Non, c'est vrai. Je suis allé voir un éditeur avec mes nouvelles, et voilà. » Ça s'arrose, ça. L'homme appelle le cafetier, un petit gros à moustache. Il est habillé bleu. Il lui dit « Monsieur va être publié !» D'une tournée, cela devient deux. Deux, trois. Car comme c'est l'autre qui paye, on ne se dérange pas. Et Charles-André n'ose pas dire non, car il est le roi de la fête. Malheureusement, à la fin, il faut bien qu'il paye. Et là, lorsqu'il voit la facture, il devient tout blanc. Les autres font ceux qui ne se rendent compte de rien. Ils disent qu'il se fait tard, qu'ils doivent partir. Cafetier attend, Charles-André seul. On a des amis que pour les bons moments. Mais lorsque les choses se gâtent, on est seul. Il trouve enfin de la menue monnaie qu'il met sur la table. Il rougit. Cafetier fait la grimace et compte. Ce qui m'en manque encore. Charles-André, tout rouge, lui dit « Je vous donnerai cela demain après-midi. » Cafetier ramasse la monnaie et lui dit « J'y compte bien, parce qu'autrement, je serai obligé d'en parler à votre père. » Charles-André est tout rouge. On le traite comme un enfant et en public. Il se lève pour sortir. Cafetier lui dit « Au revoir, jeune prince. » Il entend les gens qui rient sur son passage. Une fois dehors, il respire un bon coup et se dit « Je vais peut-être encore une fois être obligé de demander de l'argent à mon père. Mais après, avec l'argent de mes livres, je serai libre et pourrai dépenser comme je le voudrais. »
Pardon, madame.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Juniel Jean-Pierre, Les délires de la sublimation, dont c'était la sixième partie. Production, mise en scène, Juniel Jean-Pierre, enregistrement, CVRT.